qu'aujourd'hui nous allons voir le troisième message sur le New Age, qui est le New Age, une religion d'Antichrist. Donc c'est un troisième message. On a vu dans les deux précédents, on avait vu, pour rappel, qu'on avait vu le New Age selon la Bible. Donc qu'est-ce que le New Age, ses origines et les fausses promesses mensongères que donne le Nouvel Âge par rapport aux vraies promesses de la Bible. Ça c'était le premier message. Le deuxième message c'était que le New Age est un piège du diable. Donc le New Age est un piège du diable et le diable piège les hommes. Il séduit les hommes par le Nouvel Âge et donc il trompe les hommes. Donc c'est ce qu'on avait vu dans le deuxième message. Aujourd'hui, ce message sera un peu différent parce que je vais moins parler du Nouvel Âge. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les deux premiers. Ça sera plus axé sur qui est Jésus-Christ et sur l'Antichrist aussi. Donc on va parler de Jésus-Christ, de l'Antichrist. Et à travers ça, on va voir vraiment que le New Age est une religion d'Antichrist. Et donc, bien sûr, nous allons parler du vrai Jésus, du Jésus biblique et non pas du Jésus du Nouvel Âge. Parce que le Nouvel Âge a son faux Jésus. Il y a beaucoup de religions qui ont leur faux Jésus, d'ailleurs. Donc, on va vraiment parler du vrai Jésus qui est dans la Bible. Et donc, on va voir, par contraste, l'Antichrist aussi. On va voir que l'Antichrist copie Dieu et copie Jésus-Christ. Donc, cette religion du Nouvel Âge, c'est vraiment une religion antichrist, dans le sens où c'est l'homme qui est divinisé. Donc, on divinise l'homme, on se fait soi-même Dieu, c'est l'homme qui s'exalte, qui se glorifie lui-même. Et c'est exactement ce que va faire l'Antichrist. Il va s'exalter, il va se glorifier lui-même. Et d'ailleurs, dans le Nouvel Âge, on prône le fait que l'homme est Dieu, ou alors que Dieu est en tout. Et donc, c'est cet esprit d'Antichrist qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, il faut vraiment savoir, on l'a déjà mentionné dans les deux précédents, mais que le Nouvel Âge est vraiment une fausse religion qui condamne les gens à l'enfer. Les personnes qui sont dans cette mouvance Nouvel Âge ne sont pas sauvées. Elles croient dans des mensonges. Et la finalité, justement, de ce mouvement Nouvel Âge, c'est la damnation de ses adeptes. Le diable trompe et ment avec cette fausse religion afin que les gens soient damnés. Et malheureusement, c'est le cas. C'est pourquoi il faut avertir les gens, parce que les gens qui sont dans le Nouvel Âge ne sont pas sauvés. Et en plus, ça les prépare à la venue de l'Antichrist. Parce que cette religion Nouvel Âge prépare beaucoup les gens à la prochaine venue d'un homme divinisé qui est l'Antichrist. C'est ce faux Christ qui va se faire passer pour le Messie. Et c'est un imitateur qui va donc duper le monde. On va lire une citation d'Alice Bellet. Donc Alice Bellet, c'est une célèbre écrivain du Nouvel Âge. On en avait parlé dans le premier message. Je vais lire une citation pour qu'on voit bien quelle est la finalité du Nouvel Âge. Et donc, selon Alice Bellet, les principes du New Age dans l'ère du Verseau devaient déterminer le type de culture et de civilisation, ainsi que l'avènement d'une nouvelle religion mondiale. Donc, cette nouvelle religion mondiale, c'est aussi, on parle du nouvel ordre mondial, qui prendra la forme d'une approche de groupe unifiée et consciente du monde des valeurs spirituelles. Comme cela se serait produit, selon elle, dans l'ère chrétienne des poissons, ou la période antérieure gouvernée par le bélier. Donc elle dit qu'il y a eu plusieurs ères, donc il y a eu l'ère chrétienne, et après ça, c'est cette ère du Verseau, cette nouvelle ère, ce nouveau monde, ce nouvel âge. Et en fait, ce qu'elle dit à travers ça, et c'est ce que prépare cette religion du Nouvel Âge, c'est le nouvel ordre mondial. En fait, les gens, à travers le Nouvel Âge, sont préparés à accepter l'Antichrist et à rentrer dans ce nouvel ordre mondial, qui va être bien sûr gouverné par l'Antichrist. Donc, lisez cette citation pour qu'on voit bien quelle est la finalité du Nouvel Âge, parce que beaucoup de gens se disent « Ah, c'est pas si grave que ça, c'est simplement pour que je sois mieux » ou pour faire ma propre spiritualité, mais non, ça prépare vraiment les gens à quelque chose de terrible qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. Et donc, dans un premier point, on va vraiment voir qui est Jésus-Christ, donc le vrai Jésus de la Bible, et non pas justement le faux Jésus du Nouvel Âge. Et on va voir plusieurs caractéristiques de Jésus, bien sûr, il y en a beaucoup, parce qu'on pourrait faire beaucoup de sermons sur Jésus-Christ. Il est le sujet, d'ailleurs, de la Bible. Déjà, il faut savoir que Jésus est le Créateur. Donc Jésus est la deuxième personne de la Trinité. La Trinité, c'est le fait qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc il y a trois personnes et un seul Dieu. Et si vous voulez bien, on va aller dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Ceux qui veulent tourner dans Jean chapitre 1. Donc il nous parle beaucoup de la divinité de Jésus-Christ et de la venue de Jésus-Christ. Donc Jean chapitre 1, des versets 1 à 14, la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Et on voit au verset 14 que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc en fait, ce que nous dit la Bible, c'est que Jésus était avec Dieu et il était Dieu. Donc on voit que Jésus est Dieu. Dès le premier verset du livre de Jean, on voit la divinité de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est souvent le livre qu'on conseille aux gens de lire en premier, c'est le livre de Jean. Et on peut voir que la Bible dit que Jésus est Dieu. Donc Jésus est le Créateur. Verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc on voit que tout ce que vous voyez a été créé par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le créateur. Le Père a utilisé Jésus pour créer toute chose. Donc on voit l'action du Père à travers Jésus-Christ, mais toutes choses ont été créées par Jésus. Jésus est le créateur. Et au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. » Et donc on voit que Jésus est la lumière. Il disait qu'il était la lumière du monde. Jésus est la lumière. Verset 8, « Il n'était pas la lumière, donc en parlant de Jean le Baptiste, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. » Et on va reparler de Jean le Baptiste, mais Jean le Baptiste était venu pour tourner les personnes vers Jésus-Christ. Il rendait le témoignage de la lumière. Et c'est ce qu'on doit faire nous aussi aujourd'hui. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, donc on voit encore cette notion de la parole qui a été faite chair, et dans d'autres versets on voit Dieu fut manifesté dans la chair, en sachant que la parole est Jésus-Christ et que Dieu est venu en chair, on voit que Jésus est Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc ces versets prouvent clairement que Jésus est Dieu, donc que Jésus est le Créateur. Et c'est important de souligner ça parce que dans le Nouvel Âge, Jésus n'est pas le Créateur. Le Christ, ce qu'on appelle cette énergie christique, c'est une énergie de vie, mais ce n'est pas le Créateur. Et donc on voit vraiment que la Bible dit que Jésus est Dieu. Et d'ailleurs dans Colossiens chapitre 1 aussi, on a mention du fait que Jésus est Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, qui nous parle de Jésus. Et qui dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Ça, c'est vraiment des versets magnifiques qui montrent que tout a été créé par Jésus-Christ, qui est dans les cieux et sur la terre, visible, invisible. Donc Jésus a créé aussi les anges. Jésus a créé toutes choses. Et tout a été créé par lui et pour lui. Donc on voit que non seulement Jésus nous a créés, mais il nous a créés pour lui. Donc nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, Apocalypse chapitre 4, verset 11 nous dit, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Donc Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ, et c'est pour sa gloire qu'on a été créés. Donc en fait, une vie sans Jésus-Christ n'a aucune valeur parce que nous avons été créés pour la gloire de Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 2, verset 3 aussi, donc qui est le chapitre après, nous dit « En qui sont refermés tous les trésors de la sagesse et de la science ?» Donc là, en parlant de Jésus-Christ, la Bible dit qu'en lui, on a tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc en fait, si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez rien. Et dans le verset 9, il est dit « Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. » Donc on voit que Jésus est pleinement Dieu. La Bible dit « Toute la plénitude de la divinité habite corporellement. » Donc tous les trésors sont en Jésus. Jésus est pleinement Dieu. Quand Jésus est venu en homme, c'est Dieu qui est venu parmi les hommes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner et de l'élever, parce que dans le Nouvel Âge, on renie le fait que Jésus est le Créateur. Et on a 1 Timothée chapitre 3, verset 16, qui nous dit que Dieu a été manifesté en chair. Donc il y a encore beaucoup d'autres versets qui prouvent la divinité de Jésus-Christ. Mais la Bible est claire et Jean chapitre 1 est vraiment clair sur le fait que Jésus est Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué un tournant quand j'étais dans le Nouvel Âge. Quand on était dans le New Age, quand j'ai appris que Jésus était Dieu, ça a été un soulagement. C'était vraiment un immense soulagement parce qu'on cherchait Dieu et enfin on comprenait que Jésus était Dieu. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important que les gens dans le Nouvel Âge sachent que Jésus est le Créateur. Si vous recherchez Dieu, quand vous apprenez que Jésus est Dieu, c'est un immense soulagement et c'est une joie. Et Jésus donc est le Créateur, mais il est aussi le Sauveur. C'est ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 53, qui prophétisait donc la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. On va lire des versets 1 à 6 pour montrer que l'Ancien Testament prophétisait la venue prochaine de Jésus-Christ et donc que Jésus est le Sauveur. Au verset 1, il est dit « Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?» Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat, qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en fassions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Et au verset 5, il est dit, « Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. » Donc on voit que Jésus est venu pour nous sauver. Il a porté nos péchés. La Bible dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Donc quand Jésus est venu, il est venu nous sauver. Il est le sauveur. Il n'y a pas d'autre Messie. Et dans le verset 6, il est dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » Et c'est exactement ça dans ce mouvement New Age, mais même dans la vie en général, c'est que les gens suivent leur propre chemin. Dans le Nouvel Âge, chacun fait sa propre spiritualité, suit son propre chemin, veut faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ce que dit la Bible, nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin. Et pendant que justement nous étions désobéissants et que nous étions pécheurs, ben Dieu a fait venir sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Donc Jésus-Christ a porté nos fautes alors que nous ne méritions pas qu'il le fasse pour nous. Et donc c'est très important de souligner le fait que Jésus est le Sauveur, qu'il est le Messie. Et donc l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus-Christ et annonçait le fait que Jésus allait mourir pour nos péchés. Et dans Jean chapitre 1, donc on avait lu Jean chapitre 1 des versets 1 à 14, et on a aussi les versets 41 et 42 qui nous disent « André trouva le premier Simon son frère et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, loin. » Et il l'amena à Jésus. Jésus l'ayant regardé lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » Et je lis ces versets parce qu'il est dit « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, loin. » En fait, le Messie et le Christ, c'est la même chose. Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus est le Messie. Donc le Christ est le Messie. Et donc Jésus est le Messie qui devait venir dans le monde. Il est venu, et il est venu pour nous sauver. Et donc il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. C'est le sauveur de tous les hommes. Ça, c'est le deuxième point qui est très important. Jésus est le Créateur et Jésus est le Sauveur. Le troisième point, c'est que Jésus est le Roi des Rois. Et je vais souligner ce point parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Et Jésus est donc le Créateur, il est aussi le Roi des Rois, le Roi qui est descendu du ciel. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 13, où il est dit, donc Jésus parle de lui-même, et il dit « Or personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » On voit que Jésus est descendu du ciel. Et c'est intéressant de souligner le fait que c'est dit « Celui qui est descendu du ciel », donc Jésus est vraiment présent quand il parle, et il dit aussi le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc en fait, Jésus est en train de dire qu'il est ici, mais il est aussi dans le ciel. Parce qu'en fait, Jésus est le Créateur, il est en dehors du temps. Et ça montre ça encore la divinité de Jésus-Christ, le fait qu'il est là, mais qu'il parle de lui-même comme s'il n'était pas là. Et ça, c'est parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est en dehors du temps. Donc on voit que Jésus est le Roi des Rois, et c'est ce qui est souligné dans Apocalypse chapitre 19. Si vous voulez aller dans Apocalypse chapitre 19... qui est vraiment un magnifique passage sur le fait que Jésus-Christ va revenir et va établir le millénium. Donc c'est Jésus qui revient avec les saints pour établir le millénium et pour détruire l'Antichrist. Et on y reviendra aussi un peu plus tard. Mais on va lire des versets 11 à 16, pour prouver donc que Jésus est le Roi des Rois, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Au verset 11, Apocalypse chapitre 19, il est dit « Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc ». Et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Donc là, on voit le fidèle et le véritable, c'est Dieu. Donc là, ça parle de Jésus-Christ, montre encore que Jésus est Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. On va souligner ce fait qu'il ait plusieurs diadèmes, c'est-à-dire plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Comme on a vu dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc on voit bien qu'il parle de Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc comment la Bible caractérise Jésus? Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc Jésus est le roi. Donc voilà, c'est les trois points que je voulais souligner sur Jésus-Christ, c'est le fait qu'il est le créateur, il est le sauveur et il est le roi des rois. Et on va y revenir encore un peu après. Et bien sûr, il y a d'autres caractéristiques. Jésus dit de lui-même qu'il est le pain de vie, qu'il est la lumière, qu'il est la porte, qu'il est le bon berger, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire de Jésus-Christ. Comme j'avais dit, la Bible entière nous pointe vers Jésus. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Actes chapitre 10, verset 43, où il est dit « Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. » Donc là, il y a un rappel de l'Évangile, le fait que si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais il est dit aussi « Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. » Donc on voit que tous les prophètes parlent de Jésus. Tous les prophètes nous tournent vers Jésus-Christ. Et Jésus a dit d'ailleurs lui-même dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc on voit que les Écritures rendent témoignage de Jésus, donc que la Bible parle de Jésus et que Jésus est la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour une description de Jésus-Christ. Maintenant, on va parler un peu de l'Antichrist. Donc l'Antichrist, c'est celui qui va venir à la fin des temps et qui va se glorifier lui-même, qui va se faire lui-même Dieu et va donc être mis en place par le diable. Et la Bible l'appelle le fils de perdition. Donc c'est le fils du péché, le fils de perdition. Et c'est intéressant de souligner qu'il y a beaucoup de gens qui se disent athées aujourd'hui, qui disent « voilà, moi je crois que Dieu n'existe pas ». Mais quand l'Antichrist sera là, il n'y aura plus d'athées. Ou alors il y en aura très peu. Pourquoi il n'y aura plus d'athées? Parce qu'il y aura quelqu'un qui va dire « je suis Dieu » et les gens vont l'adorer. Donc en fait, l'athéisme, c'est un objet du diable. Le diable se sert de l'athéisme aujourd'hui pour condamner les gens. Mais à la fin des temps, cette doctrine sera balayée parce qu'il y aura quelqu'un qui va dire « je suis Dieu » et les gens vont l'adorer. Et donc, il n'y aura presque plus d'athées, en fait. Donc on voit que l'athéisme, c'est de la folie. Parce que le diable l'utilise actuellement, mais à la fin des temps, quelqu'un va dire « je suis Dieu » et les gens vont tomber dans le piège. Donc on voit bien que cet athéisme, c'est une excuse. Les gens trouvent cette excuse pour ne pas croire en Dieu. Et c'est un objet, enfin c'est ce que le diable utilise pour tromper les gens. Et dans le Nouvel Âge, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on a cette notion d'être son propre créateur, ou que Dieu est en tout, et c'est donc de cet esprit antichrist. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il est dit « Petits enfants, c'est ici la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'antichrist vient, » donc là, la Bible parle de l'antichrist qui va venir à la fin des temps, « il y a dès maintenant plusieurs antichrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. » Donc il y a eu plusieurs antichrists, il y a toujours des antichrists, mais à la fin des temps, il y aura l'antichrist. C'est vraiment celui qui va se glorifier lui-même et dire qu'il est Dieu dans le temple de Dieu. Ça, c'est ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Qui nous parle de l'antichrist à venir, des versets 1 à 4. Où il est dit « Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte, c'est-à-dire l'apostasie, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ça parle de l'Antichrist, du fils de perdition, qui va venir à la fin des temps et qui va dire « je suis Dieu », qui va se proclamer lui-même Dieu dans le temple de Dieu. Et c'est vraiment ce que le Nouvel Âge enseigne, cette notion de « je suis Dieu », ou alors que Dieu est en tout, ou alors que je fais Dieu à ma propre image. Et l'Antichrist est un usurpateur, c'est-à-dire qu'il va se faire passer pour Dieu. Et justement, beaucoup de gens vont tomber dans ce piège. Il va duper les gens, en fait. Et la définition de duper, justement, le fait de duper quelqu'un, c'est faire prendre à quelqu'un le faux pour le vrai. Donc en fait, c'est ce que va faire l'Antichrist. Il va se faire passer pour le vrai alors qu'il est faux. Donc il va dire « je suis le Messie, adorez-moi, je suis Dieu ». Donc il se fait passer pour Dieu alors qu'il dupe les gens parce qu'il n'est pas Dieu. Et des versets 9 à 12... On a encore des versets qui nous parlent de l'Antichrist, où il est dit, toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, « L'apparition de cet impie, donc de l'Antichrist, aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Donc on voit que le diable va donner de la puissance à l'Antichrist, qui va faire toutes sortes de miracles, de prodiges, de faux miracles, de faux prodiges, afin que les personnes justement qui aiment l'injustice, qui n'aiment pas la vérité, tombent dans le panneau. Il est dit que Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. Pourquoi ? Parce que Dieu va utiliser l'Antichrist. Et Dieu est le mal, bien sûr, Dieu n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais Dieu laisse faire les choses afin que ceux qui aiment le mensonge tombent dans le panneau de l'Antichrist. Parce que Dieu veut des personnes qui l'aiment véritablement, Dieu veut des personnes qui viennent à lui par la foi. Et il y aura beaucoup de personnes qui vont être séduites par l'Antichrist, par ses mensonges, par cette injustice, malheureusement, parce qu'on voit beaucoup de gens déjà aujourd'hui, et dans toutes les générations c'était pareil, qui refusent la vérité et qui prennent plaisir dans l'injustice et dans le mensonge. Donc beaucoup de gens vont tomber dans le piège de l'Antichrist. Et comme je l'ai dit, Dieu est le mal et Dieu n'est pas responsable de ça, mais Dieu laisse faire pour un temps. Et c'est pourquoi l'Antichrist va venir et va se proclamer lui-même Dieu et va apporter le nouvel ordre mondial. Et cette notion de nouvel ordre mondial, ça prend trois caractéristiques principales. C'est le nouveau gouvernement mondial, donc l'Antichrist qui sera au pouvoir, mais aussi la nouvelle religion mondiale, donc l'Antichrist qui sera adoré comme Dieu. Et il y aura une seule économie, un seul système financier mondial par la marque de la bête. Et donc ce nouvel ordre mondial, beaucoup de personnes dans le nouvel âge attendent ce qu'on appelle la nouvelle terre, j'en ai déjà parlé. Et bien c'est ce qu'ils attendent, en fait, ce qu'ils vont avoir, c'est ce nouvel ordre mondial, malheureusement. Beaucoup de gens attendent une nouvelle terre, une terre de paix, etc. Et l'Antichrist va venir avec son nouvel ordre mondial et les gens vont tomber dans le panneau du nouvel ordre mondial. Donc ça, c'est l'Antichrist. C'est une brève description de l'Antichrist et de ses desseins et de ses projets. Maintenant, on va voir le contraste entre Jésus et l'Antichrist. On va voir justement que l'Antichrist est derrière cela le diable, parce que derrière l'Antichrist, bien sûr, il y a le diable. Eh bien, il imite Dieu et il trompe les hommes. On va voir que vraiment l'Antichrist utilise ce que Dieu fait, il trompe les gens et il utilise et imite Dieu. Il utilise ce que Dieu fait et il le pervertit, voilà ce que je voulais dire. Et bien sûr, l'Antichrist n'a aucune chance face à Dieu. L'Antichrist sera détruit quand Dieu le voudra, mais Dieu va laisser faire pour accomplir son plan. Et comme je l'ai dit, Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu est le mal, il est parfait. Donc ce n'est pas de la faute de Dieu, Dieu laisse faire simplement, parce que c'est ce qui doit arriver, parce que les hommes prennent plaisir dans l'injustice et dans le mensonge. Et donc on va voir plusieurs caractéristiques, donc certaines qu'on a vues de Jésus-Christ, et voir qu'est-ce que fait l'Antichrist justement en imitant Dieu et en pervertissant la vérité. Donc on l'a souligné, mais Jésus est le roi, donc on a vu Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et bien l'Antichrist va se proclamer lui-même roi aussi, parce que quand il va dire « je suis Dieu », il va se mettre au pouvoir. Et bien sûr, ce sera pour un temps, mais il va se proclamer roi. Donc Jésus est le roi des rois, l'Antichrist va imiter Dieu en disant « c'est moi le roi ». Et donc il pervertit la vérité. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 4, où il est dit « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Les gens vont adorer le dragon, donc ils vont adorer le diable, ils vont adorer la bête, c'est-à-dire l'Antichrist. Et donc on voit que cet Antichrist se proclame roi, il se proclame Dieu, et les gens vont l'adorer. Et au verset 7, il est dit « Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. » Donc on voit ce gouvernement mondial, l'Antichrist qui va gouverner le monde. Et donc il lui sera donné toute puissance sur toute tribu, langue et nation, donc ce sera un pouvoir global et mondial. Et donc on voit que vraiment, l'Antichrist va se proclamer roi du monde, parce qu'on sait que déjà le diable est le prince de ce monde. Et bien sûr, c'est pour un temps. Donc on voit que le diable, par l'Antichrist, copie Dieu. Jésus est le roi, l'Antichrist va se proclamer lui-même roi, il va se glorifier lui-même. On a aussi la notion du millénium, parce que Jésus va venir établir le millénium, comme on l'a vu dans Apocalypse chapitre 19. Il va revenir avec les saints, et il va venir détruire l'Antichrist et ce nouvel ordre mondial, et établir le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Donc c'est le royaume de Dieu sur terre. Et qu'est-ce que va faire l'Antichrist ? Il va venir établir son pseudo-royaume qui est le nouvel ordre mondial. Et c'est cette nouvelle terre qui est prônée dans le nouvel âge. Et on l'a vu, on l'a vu déjà dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, que le diable, donc l'Antichrist, aura puissance sur toute tribu, langue et nation. Et au verset 8, il est dit « Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. » Donc on voit que les gens vont adorer l'Antichrist et donc vont prendre part à ce nouvel ordre mondial. Et donc, on a Jésus qui vient établir le millénium. Qu'est-ce que vient faire l'Antichrist? Il vient établir son faux royaume, le royaume du diable sur terre, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Donc on voit qu'il imite encore Dieu. Il veut essayer de faire son propre royaume. Il y a d'autres points aussi. Le fait que quand Jésus va venir établir son royaume, donc le millénium, quand Jésus revient dans Apocalypse chapitre 19, au verset 11, vous avez mentionné le fait que... De retenir cela, c'est dans le verset 12, pardon. Donc en parlant de Jésus, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, c'est-à-dire plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Donc on voit que Jésus revient avec plusieurs couronnes sur la tête. Et au verset précédent, il est dit « Et voici un cheval blanc ». Donc Jésus est sur un cheval blanc, il revient avec plusieurs couronnes. Et qu'est-ce que va faire l'Antichrist dans Apocalypse chapitre 6, au verset 2 ? Il est dit « Or je regardais, et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. » Donc cette vision de Jean qui voit l'Antichrist sur un cheval blanc avec une couronne, donc on lui a donné une couronne. Et donc c'est les hommes qui vont donner de l'autorité à l'Antichrist, le diable aussi. Donc on voit que l'Antichrist copie encore Dieu, il vient comment? Sur un cheval blanc avec une couronne. Jésus, il revient comment? Sur un cheval blanc mais avec des couronnes. Et donc on voit encore une fois que le diable imite Dieu. Il est dit, il vient pour conquérir parce qu'il vient en vainqueur pour remporter la victoire, parce qu'il vient pour établir son nouvel ordre mondial. Il y a aussi dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4, donc ça c'est un quatrième point. Dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel chapitre 9, verset 4, on voit que Dieu fait une marque sur ses serviteurs, donc sur les personnes qui sont ses enfants, où il est dit, et l'Éternel lui dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Et on a aussi ça dans le fait que Dieu va marquer de son sceau les 144 000, mais on voit que Dieu marque de son sceau les personnes qui lui appartiennent. Et qu'est-ce que va faire le diable? Il va encore copier Dieu, il va faire ce qu'on appelle la marque de la bête. Donc il prend quelque chose que Dieu a fait et il le pervertit pour sa propre gloire, en fait, le diable. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13, donc sur la marque de la bête, qui est ce système financier mondial qui fait partie du nouvel ordre mondial. Dans Apocalypse chapitre 13, des versets 16 à 18, il est dit « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, donc en parlant de la bête, en parlant de l'Antichrist, libres et esclaves, prenaient une marque à leur main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. » Donc on voit que le diable va faire en sorte d'utiliser la marque de la bête. Et ça, c'est pour faire la guerre aux saints. C'est pour condamner les chrétiens qui ne vont pas prendre la marque de la bête. Et c'est aussi pour damner les gens, parce qu'il va dire « Adorez-moi, si les gens adorent l'Antichrist et prennent la marque de la bête, ils sont damnés. Ils ont l'assurance d'aller en enfer, ils ne peuvent plus être sauvés. » Et donc on voit qu'ils ne pourront plus acheter ni vendre les personnes qui ne prendront pas la marque de la bête. Donc il y a un système financier mondial. Et le diable va donc utiliser cette marque pour marquer les gens, pour que les personnes le suivent quelque part. Et on a vu que Dieu avait déjà utilisé ça dans l'Ancien Testament, et va utiliser ça aussi avec les 144 000. Il va faire une marque sur les hommes. Donc on voit encore une fois que le diable imite Dieu. L'Antichrist va imiter Jésus-Christ. Et il y a aussi, bien sûr, on a mentionné le fait que Jésus est le Sauveur, et on sait que Jésus est ressuscité. Et bien, qu'est-ce que va faire l'Antichrist? Il va aussi copier Dieu, et il va faire sa fausse résurrection. Il va copier la résurrection de l'Antichrist. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13, versets 3 et 4, où il est dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration, suivit la bête. » Et donc on a vu le verset 14, « Et on adora le dragon, etc. » Donc on voit que la bête, on voit que l'Antichrist va être blessé à mort, et qu'il va revenir. Donc il va copier la résurrection de Jésus-Christ, pour que les gens se disent « Waouh, il est ressuscité, c'est lui, c'est Dieu, c'est le Messie. » Et donc les gens qui prennent plaisir dans la justice vont tomber dans le piège de l'Antichrist. Donc encore une fois, c'est ce faux Messie Antichrist qui va copier Jésus-Christ L'antichrist va se faire passer pour le Messie, il va faire semblant de ressusciter, alors que Jésus est le vrai sauveur et est vraiment ressuscité. Et on sait aussi bien sûr que Jésus est Dieu fait homme, comme on l'a mentionné. L'antichrist, c'est l'humain divinisé, l'humain qui se fait homme, l'homme qui se fait Dieu. Donc encore une fois, il essaye de faire comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment Dieu fait homme, lui, il va se déclarer lui-même Dieu. Et un autre point qui est intéressant à souligner aussi, si vous voulez aller dans Jean chapitre 1, là où on est déjà allé, c'est comme je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, avant que Jésus se manifeste, il y avait Jean le Baptiste, qui était un prophète de Dieu, qui tournait les gens vers Jésus-Christ, et qui était venu pour rendre témoignage de la lumière. C'est ce qu'on avait vu lu dans des versets 6 à 8. Il y eut un homme appelé Jean, donc en parlant de Jean le Baptiste, qui fut envoyé de Dieu, donc Dieu avait envoyé Jean le Baptiste pour préparer les personnes à la venue de Jésus-Christ, pour préparer le ministère de Jésus-Christ, pour que les gens soient sauvés. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Donc on voit vraiment le ministère de Jean le Baptiste, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il était là pour tourner les gens vers Dieu, tourner les gens vers Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 17 aussi, Matthieu chapitre 17, des versets 11 à 13, donc il nous parle de Jean le Baptiste. Matthieu chapitre 17, versets 11 à 13, qui nous dit « Et Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point reconnu, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront aussi souffrir le Fils de l'homme. » Alors les disciples comprirent que c'était de Jean le Baptiste qui leur avait parlé. Donc on voit que Dieu disait que... Enfin, que les pharisiens disaient qu'Élie devait venir. Et donc c'était une prophétie, et en fait c'était Jean le Baptiste, parce que Jean Baptiste avait cet esprit d'Élie. Et donc c'est intéressant de souligner que Jésus dit, alors les disciples comprirent que c'était de Jean Baptiste qui leur avait parlé. Donc on voit que Jésus-Christ disait qu'Élie était déjà venu en parlant de Jean le Baptiste. Et je souligne ça, donc Jean le Baptiste et Élie, parce qu'en fait à la fin des temps, il y aura aussi un faux prophète. Il y aura un faux prophète qui va tourner les gens vers l'Antichrist. Donc en fait le diable va utiliser ce que Dieu faisait par Jean le Baptiste et par cet esprit d'Élie, il va l'utiliser aussi pour l'Antichrist en fait. Il y aura ce faux prophète qui sera là pour tourner les gens vers le diable, comme Jean le Baptiste tournait les gens vers Dieu. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13. Et bien sûr, on ne fait qu'un survol, hein, si vous voulez, vous pourrez relire ces passages, parce que je vais rapidement dans beaucoup de passages. Apocalypse chapitre 13, versets 12 à 14. « Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, donc en parlant du faux prophète, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. » Et donc on voit que ce faux prophète va faire des prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Et qu'est-ce qu'avait fait Élie dans l'Ancien Testament? Il avait fait descendre du feu du ciel. Donc on voit que ce faux prophète, et que Dieu laisse faire pour un temps ces choses-là, utilise les mêmes choses que Dieu faisait, c'est-à-dire qu'il utilise son faux prophète pour faire descendre du feu du ciel, pour tourner les gens vers Jésus-Christ, comme Dieu avait utilisé Jean le Baptiste pour tourner les gens vers Jésus. Et on voyait qu'Élie aussi dans l'Ancien Testament faisait descendre du feu du ciel. Je trouve ça intéressant de noter que, encore une fois, le diable a copié Dieu. Le diable ne fait que copier Dieu et de pervertir la vérité. Et bien sûr, en dernier point, on sait que tout genou fléchira devant Jésus-Christ et l'Antichrist va faire en sorte que toute personne va l'adorer. Donc il va vouloir que toute personne l'adore. Les chrétiens ne vont pas le faire, ils vont être mis à mort. Et certaines autres personnes ne vont pas le faire, mais beaucoup de gens vont tomber justement et vont prendre cette marque de la bête. Donc on voit encore une fois que l'Antichrist va copier Jésus-Christ. Et bien sûr, à la fin, gloire à Dieu, l'Antichrist va être détruit par Jésus. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 19, versets 20 et 21. Donc on voit que l'Antichrist, le faux prophète, vont être jetés en enfer, où il est dit « Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang du feu brûlant, dans le soufre, et tout le reste fut tué par l'épée, etc. » Donc on voit que l'Antichrist, le faux prophète, vont être jetés en enfer. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on voit que la brillance de la venue de Jésus-Christ va détruire l'Antichrist par l'épée qui sort de sa bouche. Donc, l'Antichrist n'a aucune chance face à Jésus. Dieu laisse faire cela pour un temps, mais l'Antichrist n'a aucune chance. Donc en fait, pour conclure ce message, il n'y a pas de position neutre. Parce que des personnes pourraient dire « Ah, moi, je ne veux pas prendre position. » Non, soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté du diable. Et à la fin des temps, soit vous êtes donc sauvé et donc vous allez ne pas prendre la marque de la bête, soit vous allez être du côté du diable en prenant la marque de la bête. Après, il y aura quelques personnes qui vont sûrement passer à travers ça, parce qu'on voit qu'il y aura des hommes pendant le millénium, des personnes non sauvées. Mais la plupart des gens vont se ranger du côté du diable. Et dans notre vie, c'est pareil. On n'a pas... Il n'y a que deux choix, en fait. Il n'y a pas de neutre. Moi, je ne veux, veux pas faire de décision. Je... Non, soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté du diable. Et à la fin des temps, ce sera pareil. Et Jésus est venu justement pour exposer l'obscurité, parce qu'il est la lumière. Il est venu pour éclairer les hommes. Et la Bible dit la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc le vrai Jésus se trouve dans la Bible. Et ce nouvel âge, qui est une religion d'Antichrist, trône ce qu'est le diable, c'est-à-dire l'homme qui se fait Dieu. Donc arrêtez de croire dans cette fausse religion, justement, et croyez dans ce que dit la Bible, arrêtez de croire dans des mensonges, parce que le vrai repos, la vérité, le trésor de la vie est en Jésus. Il ne se trouve pas dans cette fausse religion antichrist du Nouvel Âge. Et on a vu plusieurs points, et je veux finir pour ça, sur cela, et qui est très important à souligner, c'est que Jésus est le Créateur, il est le Sauveur, il est le Roi des Rois. En Jésus, vous avez toutes choses, alors que dans cette religion du Nouvel Âge, vous vous glorifiez vous-même, vous vous glorifiez en tant que Dieu vous-même, ou que Dieu est en vous, etc., ou tous ces mensonges, au lieu de glorifier Dieu et de vous tourner vers le Créateur. Parce qu'on ne crée pas Dieu à son image, Dieu existe déjà, en fait. Et Dieu est dans la Bible. La Bible nous a été donnée justement pour décrire Dieu et pour nous tourner vers Dieu, alors qu'on trouve toutes sortes de folies et de promesses mensongères dans le Nouvel Âge. Donc j'espère que ces trois messages vous auront aidé à ouvrir les yeux sur le fait que le Nouvel Âge est très dangereux. On a vu beaucoup de points. Et je vous invite à voir les deux premiers messages si vous n'avez pas vu, et à voir que le nuage est une tromperie qui va justement aboutir sur ce nouvel ordre mondial. Enfin, on ne sait pas quand le nouvel ordre mondial va venir, mais c'est dans cet esprit antichrist du nouvel ordre mondial, cet esprit antichrist de l'homme divin. Et on retrouve ça dans beaucoup de choses, dans l'humanisme, on retrouve ça dans beaucoup de fausses religions, cette notion de l'homme qui se fait Dieu. Et ce nouvel âge fait partie de ces pièges du diable. Voilà, que Dieu soit loué. Merci.